Alors je l'ai allumé, je ne sais pas si vous m'entendez, ça va commencer à venir, super. Merci David. Vous allez bien ? Super. Je me prépare. Non, c'est pas ça. Revenir au début. Excusez-moi, hein. Petit problème technique. Voilà, c'est bon là ? Alors comme vous le savez, on en a parlé au week-end de rentrée, on va aborder pendant quelques semaines le livre de l'Exode. Et ce matin, j'ai pour mission de faire une petite introduction au livre d'Exode, donc j'espère que je vous donnerai envie de lire ce livre, ô combien riche. Donc j'espère que vous ne serez pas frustrés ce matin, parce qu'on va faire un bref survol. On ne va pas forcément rentrer en détail, mais vous savez, c'est un livre qui est très très riche et il y a énormément d'enseignements, de choses dont on peut tirer de ce livre. Et vraiment, je vous encourage à suivre la lecture de ce livre durant les semaines qui vont venir. Il y aura 12 sessions, 12 messages qui seront sur le livre d'Exode. On l'a découpé en 12 fois, donc ça ne sera peut-être pas 12 fois consécutives, mais bon, voilà. Ok, si je sortais mes notes, je m'en sortirais mieux. Voilà, le livre d'Exode qui est sans doute le plus grand événement rédempteur de l'Ancien Testament. Et on verra donc à travers des lectures, au travers des enseignements, que Dieu se révèle de façon glorieuse à son peuple, et puis comment il va faire de lui une nation sainte. Alors ce livre, il fait partie des 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, super. Appelé le Pentateuque, aussi appelé la Loi. Et cela constitue la première et la plus importante section de l'Ancien Testament, tant dans les Bibles juives que chrétiennes. Alors même si ce n'est pas explicitement cité dans le texte, Moïse est considéré comme l'auteur. D'ailleurs, il fait plusieurs fois référence au livre de Moïse, écrit par lui, notamment dans le Nouveau Testament. Même Jésus, par exemple, y fait référence. Dans Jean 5, verset 46, il dit « Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet ». Alors le mot exode en français vient du grec exodos et signifie sortie ou départ. Il nous parle du départ d'Israël hors d'Égypte. Mais s'arrêter à cette simple définition serait réducteur tant ce livre nous parle de beaucoup plus. Ce qui est raconté sera utilisé à de maintes reprises dans la suite des Écritures, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Si vous lisez les psaumes, si vous lisez les prophètes, si vous lisez dans le Nouveau Testament, constamment il est fait référence à Moïse, au livre de Moïse, à tout ce qui est dit. Il est riche d'enseignements pour le chrétien, car il contient des points fondamentaux pour le déroulement du dessein de Dieu pour la rédemption. Donc vraiment, encore une fois, je vous encourage à prendre une attention toute particulière durant les semaines qui viennent pour le parcourir avec nous, à y méditer et à voir comment Dieu se révèle à son peuple. Comment Dieu révèle une part de sa nature glorieuse et comment il agit au milieu de son peuple. Vraiment, je vous encourage à ne pas attendre les dimanches matins pour écouter l'enseignement qui sera donné, mais chez vous, dans la semaine, à ouvrir vos Bibles et à lire avec nous l'Exode et puis à prier et à demander à Dieu de vous parler. Alors, je vous propose de faire un bref survol du récit, quand même. Dieu a promis à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies au travers de sa famille. Et le livre de la Genèse se termine avec la famille d'Abraham en Égypte. Souvenez-vous comment Dieu a utilisé Joseph pour sauver ses frères et son père Jacob de la famine. 400 ans s'écoulent et la famille s'agrandit. Un nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph survient et tyrannise le peuple hébreu jusqu'à ordonner le meurtre de tous les premiers-nés. Moïse, vous connaissez l'histoire, hein, est sauvé et élevé par la fille de Pharaon. Plus grand, il tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il fuit alors dans le pays de Madian où il rencontre celle qui deviendra sa femme et qui lui donnera un fils. En entendant les cris du peuple hébreu, qui continue de souffrir de l'esclavage, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il décide d'intervenir par l'intermédiaire de Moïse, qui l'envoie délivrer son peuple. Il va utiliser 10 plaies qui sont comme des actes de justice divine contre l'un des pires oppresseurs de l'histoire de la Bible. Et cela atteint vraiment l'extrême, son paroxysme à la dixième plaie. Dieu va faire mourir les premiers-nés dans toute l'Égypte, dans chaque maison. Et c'est en fait une réponse de Dieu à la manière dont Pharaon a tué les fils d'Israël. Dieu instaure pour la première fois la Pâque de l'Éternel, où il demande à chaque famille de sélectionner un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, de l'immoler, de prendre son sang pour en badigeonner le montant et le linteau des portes des maisons, puis de manger la chair avec des pains sans levain, des herbes amères, en ayant au rein la ceinture, sandales aux pieds, bâton à la main, prêt à partir. Tout ceci afin que tous ceux qui s'y trouvent soient épargnés par cette dernière plaie. Ce repas, qui s'appelle la Pâque, commémore ce moment clé de l'histoire où Dieu rend justice suite au mal infligé à son peuple, mais il fait également preuve de miséricorde en offrant ce substitut. Cette dernière plaie fait céder Pharaon, qui autorise le peuple hébreu à partir avant de se raviser et de les poursuivre avec toute son armée. Dieu ouvre la mer Rouge en deux pour permettre à son peuple de passer et y referme les flots sur l'armée égyptienne qui périt. Et c'est après cette délivrance que le tout premier chant d'adoration apparaît dans la Bible, alors que le peuple loue Dieu de les avoir rachetés. Et j'aimerais juste vous lire quelques versets dans Exode 15. Donc Moïse et tous les Israélites commencent à chanter ce cantique. « Je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. » Il est devenu mon salut. C'est la première fois que le mot « salut » est utilisé. Et il signifie « être sauvé ». Être sauvé du danger. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple va commencer à errer dans le désert et à se lamenter, à plusieurs reprises jusqu'à regretter sa servitude en Égypte. Pas d'eau à boire, plus rien à manger. Mais Dieu va intervenir miraculeusement, à plusieurs reprises, en changeant des eaux amères en eau douce, en envoyant de la manne et des cailles, en faisant sortir de l'eau d'un rocher. Et c'est là que l'Éternel donne au peuple ses prescriptions et les ordonnances qu'il le met à l'épreuve. Il leur dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Puis le peuple arrive au pied du mont Sinaï, où Dieu se manifeste avec puissance au milieu du feu, de la fournaise et de la fumée. La montagne tout entière tremble avec violence. Le peuple est terrorisé et seul Moïse va monter pour rencontrer Dieu. Alors il faut se souvenir quand même que les hommes étaient dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden et qu'il y avait une communion permanente avec Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé, hein ? Leur désobéissance a rompu cette relation et coupé l'accès à la présence de Dieu. Et la promesse faite à Abraham de rétablir sa bénédiction à toutes les nations inclut la restauration de cette relation et l'accès à la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Dieu veut se révéler, Dieu veut revenir au milieu de son peuple. Et ici, sur le mont Sinaï, Dieu se manifeste sous leurs yeux. Il va inviter Israël à nouer avec lui une relation unique, une relation exclusive qu'on appelle une alliance, un engagement entre lui et son peuple. Jusqu'à présent, Dieu a demandé à Israël de lui faire confiance. Et ici, il va leur demander de suivre tout un ensemble de lois qui inclut les 10 commandements. S'ils obéissent, ils deviendront le peuple de Dieu qui reflétera sa nature aux nations, un royaume de sacrificateurs. Mais quand Moïse redescend de la montagne, il trouve le peuple en train d'enfreindre les 2 premiers commandements de l'Alliance. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Moïse est sur la montagne, certes il y a passé un certain temps, très longtemps, ils ont construit un veau d'or. Le peuple a demandé à Aaron de leur construire ce veau, qu'ils vont se mettre à adorer, puis ils vont se mettre à faire la fête. Littéralement, c'est les orgies dont il est question. Dieu veut alors les exterminer tous, mais Moïse implore l'Éternel qu'il leur fait grâce. Et plus loin, l'Éternel dira de lui-même à Moïse, « L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur le petit-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu donne ensuite des instructions à Moïse pour la construction d'une tente, appelée tabernacle, où Dieu y rencontrera son peuple. Plusieurs chapitres gorgent de détails très précis et des plans pour la construction de cette tente. Vous le verrez, hein, quand vous lirez, il y a un paquet de chapitres là-dessus. Et on verra ensemble, on abordera que chaque détail est important et a une valeur symbolique. Et à la fin du livre, le tabernacle est construit, la nuée couvre la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Mais Moïse ne peut pas y entrer parce que la nuée demeure et que la gloire de l'Éternel remplit ce lieu, remplit le tabernacle. Voilà, c'était un bref survol. Et voilà, pour moi, j'ai essayé de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je pouvais vous donner comme exhortation ce matin sans forcément m'arrêter sur un texte, mais sur l'ensemble de ce que Exode représente. Et j'ai trouvé donc plusieurs thèmes se dégagent de ce livre. Tout d'abord, Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Ensuite, Dieu conduit son peuple dans le désert. Dieu conclut une alliance avec son peuple et Dieu rétablit sa demeure parmi son peuple. Dieu revient au milieu de son peuple et Dieu appelle son peuple à vivre dans la sainteté tout en manifestant sa grâce. Et j'aimerais vous demander ce matin, peut-être que cela vous rappelle quelque chose. Sans doute, cela vous rappelle quelque chose. Hébreux 10, verset 1 nous dit « La loi, en effet, ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. » La loi, en effet, ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. Une ombre, elle est en contraste avec un objet. Alors c'est dommage, la lumière ne marche plus, j'aurais bien aimé que vous puissiez voir mon ombre sur le mur, mais imaginez-la, ce n'est qu'une ombre. Elle n'est pas l'exacte représentation de ce que je suis. Toute l'œuvre salvatrice de Dieu envers son peuple dans le livre d'Exode n'était pas l'accomplissement ultime de son plan pour les nations. Elle préfigurait quelque chose d'encore plus grand. Ça ne marche plus ? Vous ne m'entendez pas ? 1, 2, 1, 2. Ça a baissé ? Donc je répète. Toute l'œuvre salvatrice de Dieu envers son peuple dans le livre d'Exode n'était pas l'accomplissement ultime de son plan pour les nations, mais elle préfigurait quelque chose d'encore plus grand. Ces 5 livres, ce qu'on appelle la loi, n'étaient qu'une ombre des choses à venir, encore plus merveilleuses. L'histoire d'Exode est comme l'ombre du plan du salut de Dieu en Christ et à une vie dans sa présence. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin en guise d'introduction du livre d'Exode. Tout comme le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage des Égyptiens, nous sommes rendus libres de l'esclavage du péché en Jésus. Galates 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Christ nous libère. Quand vous donnez votre vie à Jésus, que vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur, il vous libère. Le livre de l'Exode nous raconte comment Dieu libère son peuple des Égyptiens, du mal incarné. Et le peuple d'Israël était pécheur au même titre que les Égyptiens, mais Dieu leur donne un moyen d'être épargné, une rançon, par la foi, le sang d'un agneau sans défaut, qui est en fait la figure de Jésus, qui est la figure de Christ, son sang qui est répandu et qui abrite le peuple lorsque Dieu frappe en jugement tout le pays d'Égypte. Aucun pécheur ne peut et ne pourra se tenir devant Dieu qui est saint. Aucun pécheur ne peut et ne pourra se tenir devant Dieu qui est saint. La Bible déclare, vous connaissez ce verset, qui dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché, en quelque sorte, nous fait prisonniers, nous retient, nous empêche de venir dans la présence de Dieu. Tout comme le peuple hébreu était prisonnier, esclave de Pharaon, l'homme est prisonnier de son péché. Mais ensuite, il est dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus s'est offert en rançon pour nous. Jean dira de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez les similitudes, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand on réalise cela et qu'on accepte ce sacrifice pour nous, ben c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est le moment où on traverse la mer Rouge en quelque sorte. Et en général, c'est avec beaucoup d'émotion, souvent avec beaucoup de joie. C'est la rencontre avec ce Jésus qui ôte un poids de nos épaules. Nous sommes libres. On découvre la vérité, le vrai sens de la vie. Et c'est le plus beau jour de notre vie. Comme ce peuple, quand il a traversé la mer Rouge et que les flots se sont retournés, ils étaient libres. Et il y a un chant d'adoration qui est venu. Et quand on donne son cœur à Jésus, beaucoup parmi nous ont donné leur cœur à Jésus. Et je suis certain que ce jour-là, ça a été un grand jour. Quelque chose d'extraordinaire. Et puis, vient le temps de notre marche avec Jésus, comme le peuple hébreu a marché avec Dieu dans le désert. Et on lit qu'à plusieurs reprises, le peuple d'Israël a aspiré à retourner en Égypte. C'est fou quand même. Moi, j'ai du mal à... Ils ont vu des choses extraordinaires, vraiment des choses extraordinaires, la mer s'ouvrir en deux, de l'eau sortir d'un rocher, de l'eau amère changer en eau douce. Et malgré ça, à plusieurs reprises, ils regrettaient l'Égypte. Soif, faim. Et ils sont même allés jusqu'à désobéir à Dieu. Souvent, il y avait des consignes qui étaient données pour la manne dans le désert, pour l'écaille, et plusieurs ne respectaient pas les consignes, jusqu'à faire ce veau d'or devant lequel ils se sont prosternés. Mais ça me paraît fou. Et pourtant, franchement, je me dis que parfois, nous ne sommes pas bien différents d'eux. Alors, j'y vais un peu fort, mais... Quand bien même nous avons été libérés du péché, il nous arrive de vouloir y retourner. Et parfois même de tomber. On passe tous par des déserts dans nos vies. Et quand nous avons soif, où allons-nous boire? Quand nous bâtissons des idoles, quelle est la place de l'argent dans ma vie? Quelle est la place de ton travail dans ta vie? Quelle est la place de ta famille? Quelle est la place des séries, des réseaux sociaux, du sport? On pourrait faire une longue liste. Eh bien, toutes ces choses peuvent devenir des idoles quand elles prennent la place de Dieu dans notre cœur. Alors certes, elles ne sont pas sculptées dans l'or, mais nous sommes prêts à leur sacrifier beaucoup de choses. Nous sommes prêts à leur sacrifier notre temps. Nous sommes prêts à leur sacrifier notre famille. Nous sommes prêts à leur sacrifier notre paix. Nous sommes prêts à leur sacrifier notre intégrité parfois. Et ainsi, nous offrons les sacrifices à nos idoles. Et je vais même encore plus loin. Même quelque chose instauré par Dieu peut devenir une idole et nous faire trébucher. Un grand ministère établi à l'origine pour glorifier Dieu, mais qui commence à prendre trop de place en nous au point de nous faire oublier pourquoi nous le poursuivons. Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Dans l'Antiquité, le Fils comme l'esclave dépendait de l'autorité du père de famille. Aucun des deux n'était autonome. Pourtant, l'un des deux était libre et ne pouvait pas être vendu. Il ne pouvait pas être chassé. Il faisait partie de la maison du Père. Être libre n'est donc pas être indépendant de Dieu, mais c'est dépendre de lui comme un fils. Être libre, je le répète, hein, ce n'est pas être indépendant de Dieu. C'est pas ça. Mais dépendre de lui comme un fils. Et c'est ce que devait apprendre le peuple d'Israël dans le désert. Oui, ils avaient été libérés de l'esclavage, mais maintenant ils devaient apprendre à vivre comme des fils. À avoir confiance en l'Éternel par-dessus tout. Israël devrait apprendre à avoir confiance en l'Éternel par-dessus tout. Avoir confiance en ses promesses et dépendre de lui entièrement. 1 Corinthiens 10, je vais lire les versets 1 à 11, nous met en garde. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Vous voyez de quoi il est fait question, hein ? Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu, comme ils l'ont eu eux. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Les Israélites ont été délivrés, mais ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Dieu les a délivrés d'esclavage, mais cette génération, âgée de 20 ans et plus, elle est morte dans le désert, à cause de son incrédulité, à cause de sa désobéissance. Ils n'ont jamais pu entrer en terre promise, et c'est la génération suivante qui est entrée. Et c'est quelque part une mise en garde pour nous, à persévérer jusqu'au bout. À persévérer jusqu'au bout. Ne nous égarons pas par manque de persévérance. Hébreux 3,14 nous dit que nous sommes devenus participants du Christ. Et Paul à Timothée nous met en garde aussi. Timothée 3, versets 1 à 5. « Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Le péché nous empêche de servir Dieu, parce qu'il obscurcit l'esprit. Il dégrade nos sentiments et il asservit notre volonté. Et le seul remède, c'est la grâce de Dieu. Le seul remède, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Nous sommes véritablement chrétiens si nous restons attachés à ce qui est l'objet de notre foi. Si nous maintenons notre confiance, notre conviction et notre foi jusqu'à la fin, ce que malheureusement beaucoup d'Israélites n'ont pas fait après leur libération. Alors parfois, dans notre marche avec Jésus, nous tombons, mais Jésus est là pour nous relever. Vous connaissez ce verset, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Merci Seigneur. Il est notre Rédempteur, mais il est aussi celui qui nous appelle à marcher dans la vraie liberté, celle de fils, de filles qui marchent dans la volonté de leur Père. On est appelé à la croissance dans la vie, dans nos vies, à croître dans l'assurance, à croître dans la persévérance de notre foi, qui deviendra de plus en plus mature et qui nous aidera à endurer certaines traversées du désert. On est appelé à la croissance. Et enfin, Dieu nous a redonné un libre accès à sa présence. En Exode, nous voyons la volonté de Dieu de rétablir sa demeure au milieu de son peuple. C'est la tente de la rencontre, le tabernacle, avec le lieu très saint où la présence de Dieu était, et où une fois par an, le grand souverain sacrificateur pouvait entrer au-delà du voile. Une fois par an, il rentrait. Et souvenez-vous, il avait des clochettes en bas de sa tunique. On accrochait une corde à sa taille, au cas aussi dans la présence de Dieu, il meurt, qu'on puisse le sortir. Personne ne pouvait demeurer dans la présence de Dieu. Seul le grand souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an. Dieu était au milieu de son peuple, mais c'était qu'une ombre des choses à venir. Et à la croix, ce voile s'est déchiré de haut en bas, quand Christ est mort pour nous, pour notre péché. Et c'est Jésus qui nous a ouvert un chemin nouveau vers la présence de Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 22. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Oui, c'était qu'une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des réalités. Nous avons un chemin nouveau vers Dieu en Jésus. Plus besoin d'un tabernacle, plus besoin d'une tente de la rencontre. En Jésus, en Christ, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu demeure au milieu de son peuple parce que son peuple est en Jésus. Et sa présence fait partie de notre marche. Et il y aura des moments dans notre marche où, tout comme le peuple hébreu était en présence de Dieu au travers de la nuée qui demeurait sur le tabernacle avec puissance, et bien il y aura des moments dans notre marche où on prendra conscience de la présence de Dieu et où on vivra des moments intenses, des moments puissants. Recherchons-les, chérissons-les. Vraiment, chérissons ces temps où Dieu vient manifester sa gloire, la gloire de son amour, la gloire de sa justice, la gloire de sa grâce, la gloire de sa fidélité, la gloire de sa présence. Voilà, je vous l'avais dit, je ne serai pas long ce matin. C'était un bref survol de livre d'Exode dans lequel on va plonger les regards pendant plusieurs semaines. Et j'espère vous avoir donné soif, vous avoir donné envie, parce que c'était vraiment qu'un survol très léger. Mais si on y plonge les regards plus en profondeur, vous verrez que ça va beaucoup plus loin. Je suis convaincu que Dieu veut nous parler et que Dieu, au travers de cette lecture, tous ensemble, veut révéler encore plus sa gloire dans nos vies et sa gloire dans l'Église. Amen.